Astrophile et Stella, votre dernier album, Patrick Ayrton, vous êtes claveciniste, musique baroque, jusque-là, tout va bien. Sauf que, interprète Patrick Ayrton, d'accord, avec d'autres musiciens qui vous ont rejoint pour ce nouvel enregistrement, mais compositeur, Patrick Ayrton. Alors là, surprise.
Vous savez, j'ai toute ma vie en tant qu'organiste, claveciniste, pianiste, je me suis beaucoup intéressé à comment la musique est faite, sa facture, sa, au niveau moléculaire, je pourrais dire. Comment c'est fait? Comment est-ce qu'une polonaise est faite? Comment est-ce qu'une sarabande est faite? Je m'intéresse beaucoup à la musique du 17e, du 18e. Comment est-ce qu'une toccata italienne est faite? Parce qu'en fait, voyez-vous, j'enseigne ça depuis 30 ans. Alors pour enseigner, il fallait au moins que je puisse montrer comment c'est fait. Improviser, voilà. J'ai beaucoup improvisé. Et puis, à un certain moment, il faut quand même... On ressent le besoin de cristalliser des choses, de les mettre sur papier. Moi, j'estime que la différence entre l'improvisation et la composition, c'est une ligne extrêmement fine et très floue. L'improvisation, c'est de la composition. La différence est temporale. Donc, on compose dans ici et maintenant, au clavier ou au violon ou à la voix. Alors que la composition, bon, on peut se faire un bon café, puis s'asseoir à une table et puis composer, passer quelques heures à composer. Et voilà, donc moi j'ai voulu m'exprimer dans un langage que j'aime beaucoup, comme si voilà, je faisais une recette de cuisine ancienne, voilà. Et je suis la recette en mettant quelques petites touches personnelles. Alors ces petites touches personnelles qui créent de la surprise ou qui choquent ou qui dérangent, parce que voilà, j'ai aucune prétention d'avoir fait que Astrophile et Stella soit du 100% Purcell ou je n'ai absolument pas cette prétention. J'ai voulu faire du Patrick Ayrton.
Oui, parce que finalement, d'interprète, vous voici aussi compositeur. Vous, en 2025, nous proposez un disque de musique baroque comme on aurait pu l'écrire au XVIIe siècle.
Vous savez, quand on regarde l'histoire de la musique, on trouvera toujours des compositeurs qui se sont exprimés dans des langages plus anciens que l'époque dans laquelle ils vivaient. Prenez Bach. Bach composait dans le style de son époque. Hein. Donc, c'était la musique moderne du jour, bien sûr. Mais dans certaines de ses œuvres, je pense à la messe en si, la deuxième partie de la messe en si, le credo. Le credo commence avec du contrepoint très, très archaïque. On ne peut pas comparer ça à d'autres parties de la messe en si, pour prendre un des nombreux exemples. En fait, c'est quoi ? Tout compositeur doit quand même faire ses gammes, apprendre à bien connaître la musique qui l'a précédé. Un autre exemple, c'est le Requiem de Mozart. Mozart, dans une lettre, dit « Il ne faut pas m'appeler un génie, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler un génie. J'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup, beaucoup absorbé les styles qui m'ont précédé. Je me suis intéressé aux musiques qui m'ont précédé. » Et en fait, voilà, moi, je ne veux absolument pas me comparer à Bach, ni à Bach, ni à Mozart, ni à Purcell, ni à quiconque, mais après 30 ans d'avoir enseigné le contrepoint et l'harmonie, et si vous voulez, de manière, comme je le dis tout à l'heure, moléculaire, de mettre sous la loupe, surtout pour mes élèves, des schémas, des mécanismes de composition qui remontent à la Renaissance, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de m'emparer de ces outils et de faire quelque chose maintenant en 2021? Qui me l'interdit? Et en fait, le résultat, et bien sûr, et c'est pas du Purcell, ni du Blow, ni du Handel, ou voilà, mais ça rappelle ces musiques-là puisque j'utilise les mêmes outils. Finalement, c'est quoi la composition? C'est toujours, on revient toujours dans le baroque à des outils. Je ne vais pas faire un cours de musique, ni de solfège, ni d'analyse, mais on revient toujours aux mêmes outils. Handel, Bach, Telemann, Vivaldi utilisent les mêmes outils. C'est comme des petits plots, mais qui mettent dans des ordres différents, mais les plots restent les mêmes.
Astrophile et Stella, donc votre musique, Patrick Ayrton, ça commence comme ça. Thank you. Astrophile et Stella, le dernier CD du claveciniste Patrick Ayrton. Quand on présente des choses comme ça, on vous imagine au clavecin avec d'autres musiciens avec vous, c'est le cas d'ailleurs, mais on n'y met pas le mot compositeur. Quelques mots justement sur ces musiciens qui sont autour de vous, à commencer par celle qui chante les textes que vous avez choisis.
Alors j'ai eu une chance vraiment formidable de tomber sur une chanteuse. Elle avait gagné le deuxième prix au concours Corneille à Rouen il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans. Et Lauren Lodge Campbell, je ne connaissais pas son nom, il m'avait été conseillé par, tenez-vous bien, ma fille qui est premier violon de l'ensemble.
Louise Ayrton.
Voilà, Louise Ayrton, violoniste, violon baroque, voilà. Et donc, pour ce projet, je me dis, Louise, parce que moi, je n'ai pas d'ensemble. J'ai eu un ensemble pendant un moment, parce que les inventions, on a fait beaucoup de beaux projets, je crois. C'était une merveilleuse époque, mais j'ai terminé cette aventure-là il y a à peu près une dizaine d'années. Et alors, pour ce projet, il me fallait des musiciens, et il fallait surtout une chanteuse de langue, préférablement de langue anglaise, pour la prononciation des textes. Il s'agit de mettre... Je suis passionné par la poésie élisabéthaine, la poésie du XVIIe siècle anglais, Shakespeare bien sûr, mais aussi tous les autres poètes qui ont gravité autour de lui. Donc voilà, il fallait une chanteuse, puisqu'il s'agit d'un site pour soprano qui soit convaincante, qui ait de l'expressivité, qui ait une bonne diction et qui incarne voilà tous ses rôles et qui mette en vie à tous ces textes. Et voilà, donc j'ai eu la chance de tomber sur Lauren, et qui était d'ailleurs, pour la petite histoire, enceinte de 8 mois, mais elle a fait un travail extraordinaire d'apprendre la musique en quelques semaines. Moi, je trouve qu'elle a fait un merveilleux travail. Quant aux instrumentistes, eh bien voilà, c'est ma fille Louise qui les a recrutés. Ils viennent de la grande famille, la grande diaspora des musiciens baroques freelance, comme on dit, qui jouent dans presque tous les grands orchestres baroques qu'il y a en France. Et donc, ce sont tous des amis de Louise. Moi, je ne les connaissais pas. Mais j'ai aussi apporté, j'ai amené un peu certains musiciens de ma génération, les vieux, comme on dit. C'était aussi sympa d'avoir quelques-uns de mes vieux complices dans le disque.
Patrick Ayrton, on a commencé notre conversation en évoquant les textes et celles qui les chantent. Alors, ces textes ces poèmes ont été écrits par William Shakespeare, par Ben Jonson et beaucoup d'autres.
Effectivement, oui, Ben Jonson, Sir Philip Sidney, John Donne, ce sont des poètes. Moi, je les lis depuis assez longtemps. J'ai des petits, vous savez, ces anthologies de poésie qui existent pour la poésie française, anglaise, que sais-je, allemande, italienne, etc. J'aime beaucoup la poésie. Et puis, je trouvais que certains de ces textes, en particulier ceux de Ben Jonson, avaient une modernité. Je suis né en 61, donc j'ai grandi avec les Beatles, et puis après avec le rock progressif.
Faut aussi le rappeler, vous êtes né à Londres.
Oui, je suis né à Londres, et c'est ma grand-mère qui m'a offert mon premier disque des Beatles, parce qu'elle est allée au concert. Elle a acheté le disque Hard Day's Night, puis elle me l'a offert. Ça s'est fait comme ça. Moi, j'ai été confronté avec aux textes des Beatles. Ils ne sont pas tous bons, mais il y en a qui sont merveilleux. Et quand j'ai lu ces textes du XVIIe siècle anglais, en particulier ceux de Ben Jonson, j'ai trouvé qu'il y avait une ressemblance avec certains textes du XXe siècle mis en musique par, que sais-je, Cat Stevens, les Beatles et d'autres groupes, voilà, qui m'ont influencé lorsque j'étais adolescent. J'aimais beaucoup cette musique-là, le rock symphonique, mais j'ai toujours aimé les Beatles. Et voilà, donc je pense que ça joue un rôle dans mes choix.
Fairyland, là, c'est texte de William Shakespeare.
Que Mendelssohn a utilisé aussi dans son Songe d'une nuit d'été, à l'acte 2, scène 2. C'est le moment où l'entourage de la reine des fées, on est dans un monde onirique, nocturne, mystérieuse, et c'est le moment où la reine des fées va dormir. Ce sont les fées qui l'entourent, qui admonestent tous les esprits maléfiques de la forêt, tous les animaux, les créatures inquiétantes, qui leur disent « Tenez-vous à l'écart, car maintenant est venu le moment du sommeil de la reine des fées. » Alors, il y a cette dualité que j'essaie de mettre en musique, tour à tour inquiétante, un peu anguleuse, un peu verticale, et puis avec la berceuse, n'est-ce pas, la berceuse qui, elle, doit être quelque chose de plus coulante, tranquille, apaisée.
Thank you.
Patrick Ayrton, en composant la musique d'Astrophil et Stella, est-ce qu'il y a des formules musicales que vous vous êtes interdites en disant non, quand même, tu ne peux pas faire ça, parce qu'il n'aurait pas fait ça. Il au pluriel au XVIIe siècle.
Ah. Quand on s'intéresse à un style, bien sûr, il y a une frontière, il y a des limites, il y a des confins au-delà desquels il faut faire un tout petit peu attention, bien sûr, pour ne pas être trop archaïque ou ni trop moderne. Mais encore une fois, je m'en suis pas trop soucié. Il y a une de mes pistes, une de mes compositions qui s'appelle « Under the Greenwood Tree ». Et là, franchement, il y a une tournure harmonique qui n'existe franchement pas du tout chez Purcell. Pourtant, on m'a fait remarquer, et j'en ai rougi plus d'une fois, que c'était une pièce qui faisait vraiment penser à ce style-là, à une musique qui aurait pu être écrite en 1660. Mais elle contient des tournures anachroniques. Je ne me suis absolument pas gêné. Pourquoi ? Encore une fois, on trouve tellement, dans l'histoire de la musique, on trouve des compositeurs qui ne sont pas entièrement fidèles à un canon d'une esthétique et qui vont tisser des petites allusions, des petites choses qui sont plus modernes, d'avant-garde, etc. Et donc voilà. Et voilà pour répondre à la question. Il y a certes des choses dont je me suis dit non, là, ça n'a pas trop marché. Mais d'autres, je me suis dit ça, c'est pas du tout 17e anglais, mais je le mets. Voilà, je l'utilise.
Exemple avec ce début d'une chanson des sorcières, c'est la plage 6 de l'album. Patrick Ayrton, on est quand même en 2025.
Oui, alors ça commence par une guimbarde, un des instruments les plus anciens qui existent. C'est un instrument qui existe en Sicile. C'est un instrument national sicilien. Il remonte au 14e siècle, sinon encore plus loin. Alors, je ne suis absolument pas gêné de l'utiliser, puisqu'encore une fois, Astrophil et Stella s'inscrit plus ou moins au milieu du 17e siècle, stylistiquement. Et voilà, il fallait un instrument qui évoque quelque chose d'inquiétant, d'étrange, d'insolite. Et voilà, c'est l'instrument qui est utilisé par Marie-Ange Petit, notre extraordinaire, si je puis dire. C'est un peu la grand-mère de tous les percussionnistes en France, vous savez. D'ailleurs, après, à la fin de l'enregistrement, elle a dit « Eh ben, merci d'avoir invité la mamie ». Et tout le monde a rigolé. Elle est formidable. C'est une des plus grandes percussionnistes que la France ait vue. C'est la percussionniste que Bill Christie a toujours voulu avoir dans ses productions. J'ai eu la chance de l'avoir pour ce. Alors, elle m'a dit que penses-tu d'un peu de guimbarde avant que la passacaille commence ? J'ai dit, mais allons-y. Et d'ailleurs, les choix des percussions jouent sur quatre pistes. Il y a des percussions sur quatre des pistes du disque. A été fait de manière assez pointue. On a pensé quelles seraient les percussions possibles dans l'Angleterre du XVIIe. We'll be right back.
Patrick Ayrton, on a insisté avec raison sur les textes, sur celles qui les chantent, sur la manière de les interpréter et pourquoi telle ou telle idée peut prendre place dans votre projet. Il y a tout de même quelques pièces instrumentales. Est-ce que c'est le moment où vous êtes senti le plus libre ?
Oui, parce qu'il n'y avait plus de texte. Il fallait donc pas de texte à respecter. Mais d'un autre côté, vous savez, quand on a pas de guide, un texte, c'est un guide. Et donc, d'un côté, on est plus libre. D'un autre, eh bien, oui, il y a tellement de possibilités quand on compose de la musique instrumentale. Où est-ce qu'on commence ? Ça a été pour chaque pièce. Je me souviens, j'ai adopté un protocole, une marche à suivre différente. Pour donner un exemple, pour Sobluna, Pavane et Gallia, j'ai commencé par tout simplement faire une structure harmonique. Parce que la pavane, elle est tripartite. Pour ceux qui connaissent bien qui connaissent la pavane, pavane est tripartite et chaque partie est répétée. Donc c'est A-A, A ou A-A prime, B, B prime, C, C prime. Donc j'ai fait cette structure, j'ai calculé que chaque partie devait avoir à peu près la même longueur, on va dire, je ne sais pas, 22 mesures ou 24 mesures. Et puis j'ai fait une trame, une suite d'accords, une construction harmonique, voilà. Donc, j'en ai même pas de thème. Et puis, avec ça, j'ai pu construire quelque chose. Donc, il faut quand même passer par la rigueur. Il faut d'abord avoir une bonne architecture. Et puis après, on part, on trouve des idées. Des idées viennent après. Des idées arrivent facilement, plus facilement.
Mais là, par exemple, l'idée de ce dialogue entre le violon et un petit orgue positif avec la viole de gamme qui fait autre chose que ce qu'on lui fait faire parfois.
Oui, alors là, ça, c'était mon clin d'œil à toute une littérature qui existe en Angleterre, surtout au XVIIe siècle. Je dis surtout en Angleterre parce qu'on trouve moins d'exemples sur le continent. C'est le dialogue entre un instrument aigu, si on peut considérer le violon, voilà, le violon commence au sol et va bien sûr très haut, et un instrument grave, mais qui ne va pas jouer la basse. Donc, c'est un trio entre basse, instrument grave, en l'occurrence la viole de gambe, et violon. Et là, on a beaucoup d'exemples de compositeurs qu'on ne connaît pas très bien, mais qu'on a beaucoup enregistrés. Maintenant, il y a énormément de versions. Maintenant, j'en donne les noms. Matthew Locke, par exemple, ou le compositeur Laws, ou Jenkins. Tout ça, ce sont des musiciens qui sont de la génération qui précède Purcell. Locke était l'ami de Purcell, le maître de Purcell, avec Blow aussi. Ils ont beaucoup composé dans ce style-là, des trios et avec orgue. Et donc c'était tout simplement un hommage. Je voulais rendre hommage à cette catégorie de musique là, et dans cette Pavane Gaillard, c'est une forme archi connue en Angleterre, surtout dans l'Angleterre du 16e.
Patrick Ayrton, au bout du compte, puisqu'on arrive à notre dernier entretien à propos de cet album Astrophile et Stella, quel est le fond de la démarche ?
J'adore regarder comment les choses sont faites. Et là, si vous allez me permettre juste de faire une petite analyse, une présentation de ce que c'est la musique de cette époque-là et comment c'est fait. En fait, c'est fait avec des matériaux, des molécules très, très simples. Très simple et très belle. Des schémas qu'on, un peu comme des Legos, qu'on met les uns avec les autres. Et on construit des choses magnifiques. En fait, pour moi, un compositeur, c'est un artisan. Le romantisme a un peu brouillé nos esprits au 19e. On considérait le compositeur comme l'être torturé qui se promène, qui attend que l'inspiration lui vienne et que les idées tombent du ciel. Mais c'est pas ça. La composition, ça a toujours été, même au 19e et au 20e, et ça a toujours été, ça passe par un long travail d'analyse. Et quand on analyse une chose, on a ce qu'on appelle en anglais un aha moment. On se dit, oh, c'est fantastique. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Il y a par exemple une basse qui fait ta ta ti ta ti ti. C'est la basse du son de 4. De 4 degrés, remonte d'un, descend de 4.
C'est la basse obstinée du canon de Pachelbel.
Exactement. C'est le Pachelbel. Mais savez-vous que l'air de la Reine de la Nuit, de la
fumée
de Mozart, c'est exactement ça. Et vous voyez que ces schémas, et puis ça s'appelle la romanesca, et on l'utilise dans toutes sortes de compositeurs l'ont utilisé. D'ailleurs, Mozart l'utilise deux fois dans La Future Enchantée. Il ne s'est pas gêné. Encore une fois, il prend un, ce qu'on appelle en anglais un schémata. Un mécanisme de composition.
Oui, mais Patrick Ayrton, quand je vous entends dire ça, j'ai l'impression de quelqu'un qui aurait simplement appliqué des recettes. Et vous allez au-delà de ça, bien sûr. Vous allez au-delà quand même.
Non, véritablement, je vous dis, j'ai appliqué des recettes. Et en fait, vous me demandez pourquoi, quel est mon cheminement, pourquoi est-ce que j'ai composé Astrophile et Stella. C'est parce que j'avais une impatience de un jour appliquer ces recettes moi-même et en faire quelque chose. Comme encore une fois, on ouvre un vieux livre de bonnes recettes anciennes et voilà.
Mais il y a la pâte du cuisinier tout de même.
Oui, bien sûr, il y a la pâte du cuisinier. Je vous donne un exemple, le Cyrano de Bergerac, c'est écrit en 1800, voilà, fin du siècle du 19e siècle. Mais personne n'a levé un sourcil à l'époque, parce que en fait, Rostand s'exprime dans une langue très, très ancienne, celle du 17e. Mais ça ne gênait personne.
Il est très inspiré tout de même par, justement, Savinien Cyrano de Bergerac.
Bien sûr. Mais il aurait pu écrire ça dans un autre aussi. Il a choisi de faire des rimes. Et quelles rimes, hein, que c'était extraordinaire ce qu'il a écrit. Et en fait, quand on lit ça, on se dit, ça pourrait être du Racine, du Molière, du Corneille ou quelque chose de plus ancien. C'est exactement la même chose. Appliquer des bonnes recettes et puis se dire pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de faire une omelette. La recette de l'omelette, je pense qu'elle remonte à très très long, très longtemps. Le bœuf, une bonne daube, un bœuf bourguignon et voilà, et rajouter effectivement, comme vous le dites très justement, rajouter une part personnelle. Et c'est ça que j'ai fait finalement en Astrophile et Stella. C'est un hommage à une langue ancienne qui fut parlée à une certaine époque. Et voilà, comme si on parlait une langue morte. Et on apprend une langue morte et on la parle maintenant avec notre accent de maintenant. On ne pourra jamais la parler comme elle était parlée à cette époque-là. D'ailleurs, maintenant, quand on enregistre du Purcell, est-ce qu'on a la preuve absolument à 100% que c'est exact, c'était comme ça qu'on jouait ? On s'en est approché depuis le début du renouveau de la musique baroque, grâce au Léonard, au Arnoncourt, aux frères Coricain, etc. En lisant des traités, je pense qu'on s'est beaucoup approché, on s'est beaucoup intéressé à l'interprétation de la musique ancienne. Mais est-ce qu'on en a la preuve ? Je ne sais pas. Et voilà, c'est tout simple. Moi, j'utilise beaucoup la comparaison avec la cuisine. Voilà. Il y a des bonnes recettes qui fonctionnent et il ne faut pas s'en priver.
Je me permets, Patrick Ayrton, pour terminer, d'évoquer un petit regret, alors peut-être personnel, je ne sais pas. Vous avez évoqué la langue, justement. Et ça concerne donc pas la musique, mais tout le boîtier du disque, la documentation qui est jointe est en anglais. Dommage, non, pour nos autres francophones.
Oh, écoutez, il n'y a rien de plus beau que de lire un texte dans l'original. On me fait cette critique. C'est un label anglais qui fait des choses très simples, qui on pourrait dire, voilà, peut-être un label Brexit, non? Je ne sais pas. Il m'importait de sortir ce disque chez Voices 8 Records parce que d'abord, ce sont des amis. J'ai contribué à les faire connaître en France. On a fait beaucoup de projets ensemble. Ils ont un label. La musique est anglaise. C'est un hommage à la musique anglaise. Et c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que j'ai ça. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres langues. Mais alors, pourquoi est-ce que ce serait en français? Si on met en français, il faudrait mettre en allemand. Si on met en allemand, il faudrait mettre en espagnol. S'ils mettent en espagnol, allez, les Italiens vont râler, etc. Donc, maintenant, je suis pas pour la mondialisation. Mais au contraire, je suis pour garder nos traditions. Mais je pense qu'il faut, il faut, se, il faut accepter le fait que l'anglais maintenant est la langue universelle. Oui, c'est peut-être quelque chose qui aurait été nécessaire, mais voilà, j'ai fait un choix.
Allez, on oublie tout ça. Astrophile et Stella, musique.
His eyes.